Et on a le droit encore de le dire, hein? C'est le dernier dimanche qu'on peut se dire bonne année. Je tiens à vous souhaiter bonne année. Une année 2023 exceptionnelle, pleine de bénédictions divines, terrestres, tout ce que vous souhaitez. Est-ce qu'il y en a qui aiment les résolutions ici? Non? Personne? Non, oui, il y en a qui oui. Est-ce qu'il y en a qui ont pris des résolutions, qui sont à l'aise de le partager, les résolutions, à main levée? Il y en a qui ont déjà pris des résolutions dans leur vie. Arrêtez là! Aidez-moi, laissez-moi pas seul en avant. Naomi, résolution, Michel, vous voulez nous partager, Michel, quelle résolution tu as pris? La semaine dernière, on entendait à quel point tu as des accomplissements. Là. On veut savoir quelle résolution tu as pris. C'est quoi que tu as déjà pris, peut-être? C'est personnel, tu n'es pas obligé de partager. Si c'est trop personnel, Michel, tu as le droit, tu as le droit. J'aime ta sagesse, c'est bon. Résolution, quelqu'un d'autre? Résolution que vous avez déjà pris? OK, c'est quoi les résolutions qui existent, qu'on peut prendre dans la vie? Kenley, résolution. Je sais que tu prends des résolutions. Un homme performant comme toi, résolution. Tu en as déjà pris? Ou non? En fait, il n'y a personne. OK, yes! Jesse, résolution. Oui. Faire plus d'exercices. Super, merci. Merci, Jesse. Regarde, on l'applaudit. Ben oui, c'est inspirant. C'est super. D'autres résolutions? Personne d'autre? OK, parfait. Personne ne veut plus. Mieux manger, très bonne résolution. On est à l'église. Il y en a qui prennent des résolutions spirituelles des fois. C'est correct, vous avez le droit aussi. Merci à ceux qui ont participé. Mais c'est très, très spirituel aussi, prendre soin de sa santé physique et bien manger, oui. Oui. Être plus patient, c'est bon, c'est la bonne résolution, super. D'accord, j'aime ça, mais merci de partager. Oui, oui Chantal. Lire ta Bible avant de déjeuner, j'aime ça, c'est bon, bonne résolution, super. Hey, on débute ce matin une thématique sur la prière, parce que la prière peut être une résolution que vous prenez. Et je ne pouvais pas commencer cette prédication sur la prière sans honorer mon bon ami, mon grand frère Doulien et son épouse Georgina qui nous visite ce matin. Pouvez-vous vous lever? Pouvez-vous vous lever? Oui, Georgina, je sais que tu es timide. Pouvez-vous vous lever? Pour ceux qui viennent à Mosaïque régulièrement, vous m'avez déjà entendu parler de mon frère Doulien, Doulien, mon grand frère. Doulien est l'homme qui m'a appris à prier. On allait à Montréal, sur le Mont-Royal, on montait, on allait tôt à 3 heures du matin pour prier. Doulien m'a appris à prier, m'a aussi appris à être généreux aussi, m'a enseigné la générosité. Doulien est mon grand frère. Je ne serais pas l'homme que je suis sans Doulien. Je voulais prendre le temps de t'honorer. Donc, te présenter ma famille aussi, Doulien. Doulien fait partie de votre famille maintenant, Mosaïque. Merci, merci d'être là. Content de te voir, brother. C'est l'histoire de deux pasteurs. Un jeune pasteur et un pasteur de plus d'expérience. Et le jeune pasteur venait de commencer dans le ministère, puis ils étaient dans les toilettes, hein, ils venaient d'aller aux toilettes. Hein. Puis ils arrivent, puis ils se lavent les mains, puis le jeune pasteur, tu sais, jeune pasteur, on est curieux quand t'es jeune pasteur. En tout cas, moi j'essaie de le rester pour le restant de la vie, mais il prend le temps de poser des questions au pasteur plus expérimenté. T'sais, pasteur, tu sais, je vois que notre église a un impact, c'est incroyable ce que Dieu fait dans notre église, pasteur, puis j'ai s'il y avait un conseil que vous pourriez me donner en ce début d'année-là, ça serait quoi, pasteur? Puis le pasteur laisse l'eau couler. Puis il bouche le lavabo pour que l'eau continue de couler. Là, le jeune pasteur lui regarde, dit, j'attends comme une réponse. Puis il laisse l'eau couler. Puis le pasteur le plus expérimenté prend la tête du jeune pasteur puis la met dans l'eau. Puis le jeune pasteur se débat, puis il se débat. Il va tuer, vous allez me tuer, pasteur, vous allez me tuer. Là, il sort sa tête. Il respire. Le pasteur met sa tête dans l'eau. Il continue, il recommence. Le jeune pasteur se débat, puis il dit, oh mon Dieu, je vais mourir jeune dans ma jeune carrière de ministère tué par mon pasteur. Ah! Il refait. Il le ressort. À un moment donné, le pasteur arrête. Et le pasteur d'expérience lui dit, la prière, c'est ton oxygène. Le seul conseil que je peux te donner, c'est que tu ne dois jamais négliger la prière. La prière ou la mort. C'est la prière ou la mort. Et moi, je crois à l'importance de la prière et je suis content qu'on ait cette thématique-là. C'est pasteur Christian qui nous a dit qu'en début d'année, c'était bien qu'on ait une thématique sur la prière. Et moi, j'en prends aussi des résolutions, je dois vous avouer. Je prends des résolutions. Mais j'aime plutôt croire aux solutions. J'aime croire aux solutions versus les résolutions. Parce que une résolution, lorsqu'on veut bien manger, prier plus, lire notre Bible avant le déjeuner, c'est une réponse à un problème qu'on veut amener une solution. Et vous savez, je ne veux pas vous culpabiliser, ceux qui ont pris des résolutions, c'est une très bonne chose, OK? Il y a une étude qui a été faite qui nous confirme, une étude qui a été faite par un professeur de psychologie de l'université Scranton, qui a découvert qu'un très haut de gens qui suivent leurs résolutions, une grande partie des gens qui décident de prendre une résolution au début d'année, ils continuent de l'avoir pendant 6 mois. Fait que c'est très bon, hein? Environ 40% des gens qui prennent une résolution la gardent pendant environ 6 mois. Et dit que ceux qui réussissent pendant 6 mois, ce qui est très bien quand même pour une résolution, c'est la moitié de l'année, il dit que c'est ceux qui ont pris une résolution réaliste, spécifique, et quand c'est dans le but de faire quelque chose de bien. Non pas pour arrêter quelque chose, parce que souvent lorsqu'on on veut prendre une résolution, c'est qu'on veut arrêter de manger trop de biscuits Oreo, dans mon cas, ou lorsqu'on veut arrêter, je ne sais pas, vous avez quelque chose que vous voulez arrêter de faire, arrêter de vous ronger les ongles, je ne sais pas. Mais lorsqu'on décide qu'on veut faire quelque chose de bien, de réaliste et de spécifique, ça augmente les chances d'avoir une résolution qui fonctionne, qui marche. Et ce matin, on a tous un peu un problème. Chacun d'entre nous, on a un problème. Vous avez peut-être été gêné en début du message, puis c'est bien correct. Mais on a tous un problème qu'on aimerait avoir une solution. Et ce matin, on va regarder l'histoire d'un personnage. Et le titre de mon message ce matin, c'est « La solution d'Asaph ». Et Asaph est un personnage de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Et son problème à Asaph, c'est que lui... Asaph était un homme religieux, un pasteur, un homme qui était responsable de la chorale, un peu du cœur de son église, si on veut. Et son problème à lui, c'est qu'il y avait des peuples qui étaient autour de lui, alors que lui honorait Dieu, faisait partie du peuple d'Israël. Il y avait des peuples qui étaient autour de lui et qui étaient des gens qui étaient violents, idolâtres, et qui étaient submergés de richesses, mais qui n'honoraient pas Dieu. Et en plus de ça, dans son peuple, à Asaph, dans le peuple d'Israël, il y avait des gens qui étaient censés suivre la voie de Dieu, un peu être la lumière pour les autres royaumes autour, mais qui se joignaient à ces peuples-là, qui se joignaient à ceux qui étaient idolâtres, violents, et qui prenaient plaisir sans arrêt, excessivement, de leur richesse. Et Asaph, j'aime le texte qu'on va regarder dans quelques instants, c'est que Asaph est honnête. Asaph est transparent. Son problème, c'est qu'il vit de la jalousie. C'est non seulement qu'il est en train de regarder ce peuple-là, puis il est en train de dire, aïe, c'est incroyable ce qu'ils font, ça n'a pas de bon sens, mais il vit lui-même une certaine forme de jalousie. Il est comme troublé. Il y a un dilemme dans son cœur. Et Asaph a été choisi, en fait, comme j'ai dit, pour être le responsable du cœur de la chorale sacrée. Et c'est le roi David, le même David qui a tué Goliath, c'est le roi David qui lui a donné ce mandat-là de dire d'être le responsable de la chorale, un peu du cœur. Et une de ses responsabilités, une des choses qu'il faisait, c'était de jouer de la cymbale. Il était un musicien professionnel lui-même. Et il aurait même fondé une école de musique. Donc, il était vraiment un musicien professionnel. Et régulièrement, le peuple offrait des louanges à Dieu. Donc, Asaph, c'était très intentionnel son travail, c'était très sérieux. Donc, c'était régulièrement que le peuple offrait des louanges à Dieu. Ça faisait partie de leur culture, d'avoir de la louange, comme on a entendu un peu plus tôt, et d'avoir de la prière. Et en fait, tout au long de l'Antiquité, on nous dit lorsqu'on étudie historiquement, c'est qu'on voit qu'il y avait plusieurs peuples autour qui faisaient ça aussi, qui avaient un chœur, des chorales. Donc, c'était vraiment une culture musicale. Et Asaph, lui, devait voir ses homologues, ses collègues musiciens faire de la musique. Donc, comparer des fois avec eux, se comparer le salaire, comparer leur réalité, se dire, mais moi, je me garde pour Dieu, puis regarde lui qui est musicien, est-ce qu'il y a un succès alors qu'il est loin de Dieu? Et Asaph, comme je l'ai dit, est un musicien professionnel. Mais il n'était pas seulement un musicien professionnel, il avait un rôle pastoral, il avait un rôle de sagesse, il avait un rôle d'encouragement. C'est pour ça qu'on lit certains de ses psaumes. Puis on peut supposer qu'avec son rôle, il a fait vœu de modestie. En tant qu'homme de Dieu, il a fait vœu de modestie. Si moi, pasteur Emmanuel, j'arrive à l'église, à Mosaïque, avant la réunion, avec une Lamborghini, ça va vous déranger. Pas vrai? J'espère que oui, en tout cas. Fait qu'Asaph avait fait vœu de modestie, de dire, oui, je suis un homme de Dieu, donc je vais faire attention comment je dépense mon argent, comment je ne vais pas dépenser à outrance et choquer les gens avec mes richesses personnelles. Et Asaph prend le temps de nous le dire, puis dans le texte qu'on va regarder, c'est qu'il y a un dialogue avec Dieu. On le voit, on sent son dialogue. Face à son problème, on voit qu'il y a un dialogue, mais il est aussi très proactif. Et moi, je crois que la prière, c'est être proactif, c'est un dialogue avec Dieu, puis on le voit tout au long de la Bible à quel point c'est un dialogue. Et la prière d'Asaph se résume en 3 points ce matin. La solution à l'injustice qui fait mal, la solution à ta santé globale et la solution miracle à ta vie normale. Et pour ceux qui viennent de se réveiller, oui, ça rime. Psaume d'Asaph, c'est en psaume 73, vous pourrez le lire avec moi si vous voulez. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Ils sacrent beaucoup. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, des gens de son propre peuple. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau et il dit, « Comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence? Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants, je trahirai ma communauté. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu, jusqu'au moment où je suis allé à l'église et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine, et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. C'est un peu plus de versets ce matin, mais je trouvais qu'il y avait une richesse dans ce psaume-là, puis c'est important de le lire au complet pour le mettre dans son contexte. Et comme je le disais, on le voit, le premier point ce matin, on voit la solution à l'injustice qui fait mal. Asaph prend le temps de dire à quel point, c'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur. C'est comme si, Dieu, moi, est-ce que j'ai fait ça pour rien? Est-ce que je me garde pour toi pour rien? Et tous les pasteurs pourront vous le dire, on a tous des fois ce questionnement-là de dire, Dieu, est-ce que tu es avec moi? Des fois, lorsque je vis ces doutes-là, lorsqu'il y a de l'injustice, est-ce que tu es avec moi? Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. Asaph nous dit, wow, oui, il y a de l'injustice, oui, il y a des choses qui arrivent, mais il a été capable de prendre un recul. J'aime son honnêteté, sa franchise dans ce texte. Et puis par la suite, qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'au moment où je suis rentré dans les sanctuaires. D'autres versions disent, jusqu'au moment où je suis entré dans la présence de Dieu, où j'ai prêté attention au sort final des méchants, jusqu'au moment où je suis allé à l'église. Cette semaine, j'avais une rencontre avec un homme de notre église qui me disait que chanter, c'est prier deux fois. Louer Dieu, c'est prier deux fois. Ce matin, on a été conduits par notre formidable équipe et j'y pensais justement, puis je me disais, on est en train de prier. On loue Dieu, on chante, puis les chants qui sont écrits souvent ont été écrits dans des chants de prière. Les auteurs qui écrivent ces paroles-là, comme Asaph, ça a été fait dans des moments de prière. Et ce matin, je vais tellement vous dire bravo d'être à l'église. Malgré la neige, malgré le froid, bravo que ça puisse être pour vous peut-être une solution à votre année 2023 d'être à l'église régulièrement. Et moi, je suis d'origine haïtienne et congolaise, et dans toutes les cultures, on a des expressions lorsqu'on parle de l'église ou certaines habitudes qu'on a. Et les Africains, eux, disent, tu pries où? Où tu pries? Tu pries où? pour dire à quelle église tu vas. À quelle église tu vas. Donc il y a une association avec le aller à l'église et la prière. On ne veut pas seulement aller à l'église parce que c'est religieux. Non, on sait que lorsqu'on va à l'église, c'est dans le but de prier. Et je te pose la question ce matin, où pries-tu? Tu n'es peut-être pas encore engagé à une église, ou ton église c'est Mosaïque, c'est formidable, mais peut-être que tu promènes d'église en église, mais peut-être que tu dois t'engager à dire, moi, il y a un endroit où je vais régulièrement pour prier. Et je vais vous dire en toute honnêteté, il y a plusieurs chrétiens qui remettent même l'importance d'aller à l'église en présentiel, comme on dit. Mais moi, je trouve qu'il y a tellement quelque chose d'important, l'expérience est tellement différente et... Puis c'est super en ligne, mais il y en a qui sont en ligne présentement, puis c'est super, il y en a qui sont malades, qui ont la COVID peut-être, vous avez un virus, vous restez à la maison, c'est super. Il y a des gens qui nous écoutent de partout au Québec, j'y crois, puis c'est super. Mais l'expérience, la chance qu'on a de pouvoir se réunir à l'église, entendre, louer Dieu ensemble, je pense que c'est une expérience qui est différente. Amen? Il y a des choses qu'on peut faire en ligne, mais il y a des choses qu'en ligne, c'est bizarre. Si je dis à mon épouse Émilie, qui a fait des annonces qui étaient super d'ailleurs, je t'aime. Mon amour, je pense que en 2023, notre mariage, on devrait le vivre virtuellement. Moi, je vais me prendre mon petit appart. Toi, tu as le tien. On vit ça virtuellement. Qu'est-ce que tu en penses? Elle va me dire, non, mon homme, garde ton virtuel pour toi. Il y a des choses qui doivent se vivre en présentiel, en personne. Et l'Église en fait partie, j'y crois. Donc, je vous challenge cette année. Puis je comprends, des fois, on travaille, il y en a qui travaillent les dimanches, puis notre réalité a changé, on n'a pas tous les mêmes horaires. Mais je vous encourage, lorsque vous le pouvez, venez à l'Église. Je continue, je clôt la parenthèse Église. John Wimber a dit, « La bonne nouvelle, c'est que Jésus prie pour toi. La mauvaise nouvelle, c'est que tu vas en avoir besoin. » Ouais. Moi, je crois que Jésus prie pour nous, et c'est biblique même, Jésus prie pour nous. Si tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus, on sait que Jésus prie pour nous présentement, à la droite du Père, il prie pour nous, et on va en avoir besoin. Est-ce qu'on est d'accord que la vie est injuste? La vie est injuste. Et j'aimerais, en tant que pasteur, vous dire, lorsque vous devenez chrétien, tout va bien aller, ça va être formidable. Non, 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 la vie est injuste. C'est l'histoire de cet homme, c'est une histoire vraie en plus, qui a gagné la loterie, le 649 dernièrement, il a gagné à la loterie. Et puis, il y a quelques millions, là. Lui, il peut s'acheter sa Lamborghini. Puis, il a gagné à la loterie, et puis, son journal local disait, hey, monsieur, on veut faire une reconstitution, un peu revivre ce que vous avez vécu, on veut faire un reportage sur le fait que vous avez gagné à la loterie. Donc, le monsieur est bien content, millionnaire, il dit, sans problème, j'ai du temps, j'ai quitté ma job. Il va au magasin où il a acheté son 649, et il retourne avec l'équipe de tournage, puis pendant qu'il achète une nouvelle loterie, je ne joue pas à la loterie, ça paraît-tu? Il achète un nouveau gratteur, et puis finalement, il le gratte. Et puis, l'équipe de tournage, à un moment donné, il y a un certain malaise parce que le monsieur est comme figé, il devient bleu. Il a encore gagné plusieurs millions. La vie est injuste. Amen. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde présentement, l'Ukraine, la guerre qu'il y a au Congo et dans plusieurs autres pays qu'on balbale toujours dans les médias, ce qui se passe en Iran présentement. Lorsqu'on regarde à quel point, au Québec, on est rendu, je ne sais pas, dans une vingtaine de féminicides, des femmes qui sont tuées injustement. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde, la vie est injuste. On a l'impression des fois que c'est les bonnes choses arrivent toujours aux mauvaises personnes et qu'il y a des personnes qui devraient être pénalisées, qui ne le sont pas, la vie est injuste. On a l'impression des fois que c'est les plusieurs célibataires pour le dire, mais moi je sers Dieu, j'aime Dieu, pourquoi je suis encore célibataire? Puis il y a telle personne qui il passe d'un copain à une copine à l'autre, puis on dirait que Dieu m'a abandonné, la vie est injuste. Tu as peut-être vécu des injustices au travail, des injustices dans ta famille. Peut-être que même tu t'es déjà demandé, pourquoi je suis né dans cette famille-là? Pourquoi ça m'arrive, cette situation-là? Pourquoi je suis né dans cette famille-là? Pourquoi je suis né dans ce pays-là? Tu t'es peut-être posé ces questions-là. Moi, ça m'est même déjà arrivé. Pourquoi je suis né dans cette famille? Mais moi, j'aime ce que Asaph dit. Je place mon refuge en toi. Et lorsqu'il dit qu'il place son refuge en lui, c'est le mot refuge, c'est le mot maser en hébreu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Ça veut dire que lorsqu'il y a des problèmes, et le mot refuge, c'est comme si c'est un bouclier. C'est lorsqu'il va avoir des attaques, il va avoir des injustices, il va avoir toutes sortes de choses qui vont m'arriver, il va avoir des défis, il va avoir des problèmes. Mais je sais que Dieu est mon refuge, qui me protège, qui en fait, qui protège mes pensées, qui protège ma perspective, qui me garde dans une bonne santé spirituelle, qui m'aide à continuer à prier malgré l'injustice. Je veux t'encourager ce matin. Tu vis une injustice. Mais la prière va t'aider à relativiser. La prière va t'aider à avoir une autre perspective. Et deuxièmement, la prière, c'est une solution à ta santé globale. Qu'est-ce qu'il dit à Asaph? Il dit, j'étais jaloux. Il y a de l'amertume. Je ne sais pas si tu as déjà vécu de l'amertume, mais quand j'avais de l'amertume ou de la colère ou j'avais de la misère à pardonner quelqu'un, je sentais que je n'étais pas bien, je n'étais pas souriant, il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau de ma santé. Il dit, mon cœur était aigri et mes reins transpercés. Et lorsque la Bible parle des reins, les reins, c'est vraiment le centre des émotions, littéralement. Jésus, ses entrailles étaient bousculées lorsqu'il, d'amour pour les gens lorsqu'il les voyait. Et lui dit, ses reins, Asaph dit, ses reins sont transpercés. Il est tellement troublé, il est troublé émotionnellement. Il dit, mon pied allait trébucher. Mes pas étaient sur le point de glisser. Il aurait pu faire une chute morale. Il aurait pu changer de camp. Tellement que ça n'allait pas bien, il était littéralement troublé, ça n'allait pas bien pour lui. Il y a des chercheurs de l'université de Baylor qui ont fait une étude sur la prière. Et ils ont découvert que les gens qui prient à un Dieu qui est aimant, bon, compatissant, ont moins d'inquiétude, moins d'anxiété, et ont une meilleure relation que ceux qui prient, mais qui ne s'attendent pas à rien recevoir de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui font ça, qui font juste prier par habitude, mais qui n'ont pas une réelle attente envers Dieu, un Dieu aimant, un Dieu bon, un Dieu qui va prendre soin d'eux. Cette étude fait juste confirmer notre théologie, qu'on a un Dieu qui est aimant, qu'on a un Dieu qui écoute nos prières. Est-ce qu'il répond comme on voudrait toujours? Non, pas nécessairement, mais il veut notre bien, il est aimant, puis il est avec nous, il marche avec nous. En résumé, tu veux une meilleure santé? Prie. Tu veux une meilleure vie? Prie, bien sûr. Mais tu veux une meilleure santé en 2023, commence à prier. C'est logique. Si tu as une bonne santé mentale, tu vas avoir envie de prendre soin de ta santé physique. Tu vas avoir envie de prendre soin de ta santé financière. Mais tu dois commencer par ta santé spirituelle. C'est la base de tout. Ça va avoir un impact sur toutes tes autres habitudes. Et la prière, c'est une habitude pionnière. C'est prouvé scientifiquement qu'il y a des habitudes que lorsque tu les fais, ça affecte toutes tes autres habitudes autour de toi. Je t'encourage et je le prêche, mais je le vis. Si tu t'engages à prier en 2023, ça peut avoir un impact sur ta vie au complet, sur ta famille, ça peut changer des générations. Le théologien Dallas Willard a dit, « Même lorsque nous prions pour nos besoins personnels, les bienfaits de la prière se manifestent dans plusieurs aspects de notre personnalité. Cette conversation avec Dieu, lorsqu'elle est vraiment une conversation, laisse sa marque dans notre esprit et notre conscience. Et le Dieu avec qui nous parlions reste présent dans notre esprit. Prier régulièrement donne ce sentiment d'être prêt à prier lorsque la prochaine occasion se présente. Plus nous prions, plus nous pensons à prier. Et lorsqu'on voit ce que la prière peut faire, que Dieu répond, notre confiance en Dieu grandit et se manifeste dans plusieurs aspects de nos vies. Prier régulièrement est un fardeau comparable au poids des ailes de l'oiseau qui s'envole. La prière va t'aider justement à découvrir des nouveaux horizons, des nouvelles aventures. Et plus tu vas prier, plus tu vas te sentir une légèreté, il va y avoir une facilité à prier. Et tu vas te sentir comme cet oiseau. L'oiseau ne dit pas « Oh my God, mes ailes sont lourdes, je ne peux pas voler. » Non, non, non. C'est rendu habituel, c'est naturel. Et c'est comme ça la prière. Et je le dirais comme ceci. Ça va apparaître à l'écran, tu peux le prendre ça en note. Tu ne fermes pas tes yeux pour prier, tu pries pour ouvrir tes yeux. Tu ne fermes pas tes yeux pour prier, tu pries pour ouvrir tes yeux. Puis on l'a fait ce matin avec Marie-Hélène, c'est super, puis c'est une habitude qu'on peut faire des fois pour se concentrer, puis c'est bien correct. Mais moi, je crois que si tu développes une vie de prière, Dieu va t'aider, tu n'auras pas besoin de fermer tes yeux en fait pour prier, c'est que tu vas avoir besoin de prier pour commencer à avoir les directions dans ta vie.
Tu vas avoir besoin de prier pour que Dieu te guide par rapport à ta carrière, tes choix, pour tes enfants, que Dieu va te donner une deuxième sagesse. Et je le prêche et je le vis. Et je ne suis pas le plus sage, je fais des erreurs, j'en fais encore. Mais ma vie de prière, et mon frère Doulier pourrait vous le témoigner, ma vie de prière m'a aidé à justement savoir dans quelle direction je viens. Je ne me tiendrais pas devant vous si je n'étais pas un homme qui prie. Et Dieu m'a guidé dans ces moments-là, puis je veux t'encourager à dire, tu veux voir plus loin, tu veux voir plus clair. Peut-être que présentement tu vois noir, peut-être que tu as des défis justement avec ta santé mentale. Mais prier va t'aider à ouvrir tes yeux. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Oui, ce que Dieu fait lorsqu'on lui fait confiance, Mosaïque. Et troisièmement, la prière, c'est la solution miracle à ta vie normale. On aime tous les solutions miracles, hein? On s'en est tous fait vendre au début d'année. Prends ce produit, tu vas avoir un corps de rêve. Hein? Dans notre société, les solutions miracles, tout de suite, micro-ondes, tout de suite, on veut ça tout de suite. Non, non. Mais la foi chrétienne, ce n'est pas seulement une solution miracle tout de suite, c'est une solution miracle à ta vie normale, à ta vie de tous les jours. Qu'est-ce que dit Asaph? Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Il dit, pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi. Et on va se le dire, honnêtement, la majorité des gens, pas vous qui êtes présents ce matin, vous êtes tous des hommes et des femmes de Dieu qui priez régulièrement, mais la majorité des gens sur la terre prient quand? Dans l'avion? On prie lorsqu'on y arrive une situation d'urgence, un défi de santé, lorsqu'il y a une maladie grave, on a tous prié pour que la fichue pandémie s'arrête. Hein? La majorité des gens prient pour... Là, vous avez prié quand j'ai parlé de 649 tantôt parce que vous allez peut-être aller en acheter un, peut-être. Pour gagner à la loterie. Mais honnêtement, on prie souvent dans des situations d'urgence. Et moi, je vous dis, après 17 ans de vie chrétienne, moi, j'ai vu des miracles de tous les jours. Est-ce que j'ai vu des gens qui étaient paraplégiques marcher? Peut-être pas, non. Mais j'ai vu des gens dans la vie de tous les jours qui priaient, des gens qui m'ont témoigné. Puis ça m'a donné tellement envie de prier, mais je vous dis, en priant, de voir des vies changer, de voir des familles restaurées, de voir des couples qui se disaient, nous, on ne veut plus être ensemble. Des couples chrétiens, on ne veut plus être ensemble, puis on ne veut plus rien savoir l'un de l'autre, mais qui reviennent ensemble parce qu'il y a la prière. Puis je me rappelle, j'étais au téléphone avec un ami à moi, puis qui me disait, « Man, je veux me battre pour revoir ma femme. J'ai fait des erreurs, mais je veux me battre pour la revoir. Puis prie pour moi. » Puis on a prié ensemble, ils priaient, puis ils sont ensemble aujourd'hui. Il y a un autre bébé, puis c'est formidable. Ça, c'est des miracles de la vie de tous les jours. Moi, je suis un des miracles de ma cousine Marie-Carmel. Moi, quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'étais début vingtaine, jeune adulte. Et puis, j'avais déjà commencé à consommer. Je consommais beaucoup. Je consommais bien sûr de l'alcool beaucoup, mais je consommais aussi de la drogue. T'sais. Puis, ma cousine Marie-Carmel, qui était une femme exceptionnelle, une femme de Dieu, quelques années plus vieille que moi, moi, j'avais arrêté l'église. Je ne voulais plus rien savoir de l'église, mais elle avait continué à y aller. T'sais. Et ma mère priait pour moi, mais Ma cousine, vu qu'on avait on était une génération quand même assez proche, tu sais, lorsqu'elle parlait, je l'écoutais un peu plus que ma mère. Tu sais, elle avait plus une influence que ma mère sur moi. Puis je ne sais pas pourquoi, on est 7 enfants à la maison, mais ma cousine, elle me talonnait moi. Régulièrement, elle m'appelait, elle me disait, Emmanuel, je prie pour toi. Je prie pour toi régulièrement. Dieu a des grandes choses pour toi, Emmanuel. Dieu va t'utiliser, Emmanuel. Je prie pour toi. Puis, tu sais, moi, j'avais consommé, je surconsommais même. Et puis, ma cousine me parlait. Puis, des fois, j'avais fumé, oh, toute honnêteté. J'étais dans un autre monde. Je n'étais pas prêt pour prier. Mais elle priait avec moi, elle priait pour moi. Mais plus elle faisait, il y avait quelque chose qui se déposait dans mon cœur. Puis, je commençais à dire, hey, peut-être que ça va marcher, cette affaire-là, à un moment donné. Puis, elle continuait. Puis, elle disait, je prie pour toi, puis elle continuait. Vous savez, c'est qui la première personne qui m'a invité à parler devant des gens? C'est ma cousine Marie-Carmel. Lorsqu'elle a vu ma conversion, lorsqu'elle a vu mon changement, c'est comme si elle voulait, elle disait, « Non, non, moi j'ai prié. Le miracle, je veux le voir en action. Je veux être une des premières personnes à le voir parler parce qu'elle priait. » Je veux t'encourager ce matin. Je veux t'encourager si tu es un parent ou si tu pries pour quelqu'un, ne lâche pas, ça vaut la peine. Pas toujours facile, puis des fois on se dit, aïe, est-ce que cette personne-là va changer? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ça vaut la peine de prier? Je veux t'encourager. Mais je veux aussi t'encourager à toi-même prier. À dire, on ne sert pas juste un Dieu d'urgence, lorsqu'on est dans l'avion. Non, non, non. Prier régulièrement, ça va changer ta perspective. Mais tu sais, c'est quoi le plus grand des miracles? C'est que oui, ma vie aujourd'hui, je suis reconnaissant, je suis très content, mais le plus grand des miracles, c'est que j'ai accès au vrai bonheur. C'est que si je meurs aujourd'hui, je sais où est-ce que je vais. C'est que Dieu a changé ma vie, oui, mais aussi il a changé ma destinée pour mon éternité. Et toi? Je te pose la question ce matin. Au-delà de la prière, peut-être que tu dis, tu parles de prière, moi je ne suis pas rendu là, Emmanuel, mais est-ce que tu as eu l'occasion de te poser la question, de dire, est-ce que tu connais ce Créateur-là qui est vrai, qui est réel, puis qui fait des grandes choses dans la vie des gens qui sont autour, puis des gens qui sont dans cette salle? Je t'invite à être honnête. Après cette réunion, à être seul chez toi, de dire, dans tes mots à toi, de juste commencer à le prier. Dire, hey, Dieu fait quelque chose dans ma vie. On a entendu parler de miracles ce matin, fait quelque chose dans ma vie. Change mon cœur, change ma vie, j'ai tel défi. Parle-lui, sois honnête. Puis je veux dire honnêtement, tu as le droit même d'être en colère avec lui, tu as le droit d'utiliser tes mots, mais prends le temps de lui parler aujourd'hui. Et en terminant, je vais vous partager, c'est un message pratique aujourd'hui, des solutions pratiques pour développer ta vie de prière. J'invite les musiciens à s'approcher. Tout d'abord, solution pratique pour développer ta vie de prière, reste connecté à l'Église. Reste connecté à l'Église. Bonjour à ceux qui sont en ligne, bravo, vous êtes connectés à l'Église. Reste connecté à l'Église en venant régulièrement, en étant là les dimanches. Les boys, je m'adresse à vous. Vous êtes les pasteurs de vos familles. Dites à vos épouses, on va à l'Église. C'est vous les pasteurs de vos familles. Encouragez-les à aller à l'Église. Si vous êtes malade, on regarde l'Église en ligne. On va regarder un film après, mais on regarde l'Église en ligne. Reste connecté. Mon épouse en a parlé un peu plus tôt. Viens dans un groupe élément. C'est un lieu où tu vas pouvoir prier avec les gens, où ce que tu vas être challengé à prier, à te rapprocher de Dieu. Viens dans un groupe élément. On a une super réunion avant la réunion de 10h à 10h20. On prie l'équipe. Il y a une équipe de prière qui est là, puis c'est bienvenu à tous. Vous pouvez venir prier avec nous. Viens, ça peut être une manière pour toi d'apprendre à prier, de commencer à prier. En t'impliquant, lorsque tu sers, lorsque tu es impliqué, lorsque tu es impliqué au niveau des enfants ou ailleurs, à l'accueil, on a plusieurs départements, ce qu'on a besoin, la sécurité, et j'en oublie. Mais lorsque tu es impliqué, ça t'aide à justement à dire, « Oh, je prie où? Je vais où? Où est mon lieu de prière? » Ça t'engage. Et deuxièmement, choisis le même lieu et le même moment. Les humains, on est des bêtes d'habitude. On est des bêtes d'habitude. On a besoin de prier d'associer des lieux et des moments. Il y a un lieu où tu brosses tes dents, il y a un lieu où tu déposes tes lunettes, si tu as des lunettes comme moi, lorsque c'est le temps de dormir, tu as un lieu pour chaque chose. Donc, tu devrais avoir un lieu pour prier. Et je t'encourage à prier au même moment. À ne pas te dire, oh, mais je vais être organique, je vais laisser le flow guider tout. La réalité, c'est que tu ne le feras pas. Prie au même lieu, même moment. C'est comme ça qu'on fonctionne, on est des bêtes d'habitude. Troisièmement, commence petit et dans tes mots. Dis pas, pasteur Emmanuel, je vais prier une heure par jour pendant une semaine. Non, tu ne le feras pas. Puis après deux semaines, tu vas te tanner, puis tu vas arrêter, puis tu vas être découragé. Commence par 2 minutes, chaque jour. 2 minutes tous les jours, 5 minutes. Puis une année, tu rajoutes 1 minute, mais ce n'est pas grave. Dieu veut juste voir que ta fidélité. Puis plus tu vas prier, puis plus tu vas avoir envie de prier, comme on le disait un peu plus tôt. Mais engage-toi à dire, je vais le faire tous les jours. Commence petit et dans tes mots. Ça peut être dans ta langue. En espagnol, en portugais, en créole, en didar, peu importe ta langue. En français, en anglais, en créole, dans ta langue. Dans tes mots, parle à Dieu, exprime-lui. Exprime-lui tes défis, ce que tu vis, tes peurs, tes stress, tes inquiétudes, dans tes mots. Et dernièrement, la prière ou la mort. La prière ou la mort. Puis je sais que c'est un peu intense, OK, ce matin, la prière ou la mort, mais il y a une raison derrière ça. Moi, je suis, comme je vous le disais un peu plus tôt, je suis d'origine congolaise et haïtienne, et les Haïtiens, on a une soupe qu'on mange à chaque année, qui s'appelle la soupe joumou. Okay? C'est fait à base de plusieurs légumes, mais à la base de citrouilles principalement, mais de la viande. Tout le monde a leur soupe joumou différente. Donc, le 1er janvier, on mange la soupe joumou pour célébrer l'indépendance d'Haïti. Haïti a été un des premiers pays qui s'est libéré de l'esclavage, un des premiers pays noirs qui s'est libéré de l'esclavage. Donc, le 1er janvier, on se remémore le fait qu'on est libre et qu'auparavant, on ne pouvait pas manger la soupe joumou. C'est les colonisateurs qui pouvaient la manger, mais nous, on ne pouvait pas. Donc, le 1er janvier, c'est un rituel. On fait ça à tous les Haïtiens à travers le monde. Et moi, je crois qu'au ciel, tout le monde va manger de la soupe joumou. Amen. Donc, tous les premiers, on mange la soupe jumu, puis c'est important pour moi. Moi, même ma fille, cette année, je l'ai challengée, j'ai dit, « Wow, Gloria, tu sais quoi? On va manger la soupe des super-héros. » Parce qu'il y a des super-héros qui ont réussi à se libérer, puis on mange ça. Puis c'est important de nous rappeler, puis c'est même un geste spirituel, cette liberté-là, parce qu'aujourd'hui, on peut être unis, puis ça a été un symbole pour que plusieurs pays puissent se libérer. Puis j'y crois, et c'est vraiment fort. Mais vous savez, quand on étudie l'histoire de cette indépendance-là, il y a des hommes qui se sont battus, qui se sont sacrifiés. Comme le général Dessalines, il y a une image qui va apparaître à l'écran. Et le général Dessalines était un général de gens qui avaient été des esclaves pendant des centaines d'années, des dizaines et des dizaines d'années. Ils avaient peu de moyens, il n'y avait pas nécessairement une armée assez équipée comme les Français de l'époque. Donc, lorsqu'on étudie vraiment, c'est vraiment une prouesse militaire, ce qu'ils ont réussi de faire, de se libérer de Napoléon et tous les l'Empire français de l'époque, c'était vraiment une prouesse qui a mis une grosse colère. De dire, comment ils ont fait, eux? Mais vous savez, le général Dessalines et Toussaint Louverture devaient donner une vision au peuple pour leur dire, on va y arriver. Ne reste pas dans l'esclavage. Parce qu'il y avait des esclaves qui disaient, on est bien, on n'a pas besoin, c'est pas ton affaire, je vais mourir. Il y avait besoin de leur donner une phrase pour qu'ils retiennent ça, de leur passer un message fort. La liberté ou la mort? Pas le choix. La liberté ou la mort? Moi, je l'ai appliqué à ma vie spirituelle. La prière ou la mort? Si je ne prie pas, je ne vis pas. Si je ne prie pas, je n'existe pas. Si je ne prie pas, si je n'ai pas une relation avec Dieu, il y a une partie de moi, oui, je vis, oui, je respire, oui, vous comprenez, physiquement, biologiquement, mais spirituellement, il y a quelque chose qui est mort en moi. Ce matin, je vais être honnête avec vous, c'est début d'année, Mosaïque, on parle d'Azaf, d'un pasteur. Ça existe des pasteurs qui s'éloignent de Dieu, qui se détournent de Dieu, qui se fâchent contre Dieu. Déception, chute morale, erreur. Et la majorité, je vous le dis, la majorité, lorsqu'on leur demande « Pourquoi tu t'es éloigné? » Ça m'est même arrivé à des amis proches à moi. « Pourquoi tu t'es éloigné? » Ils disent tous « Je ne priais plus. » La prière ou la mort. Je veux nous encourager, Mosaïque. On a ce désir-là de dire, la prière n'est plus dans la catégorie négociable. Il y a des choses qu'on négocie dans la vie. Hein? Il y a des choses qu'on fait, oh, je vais le faire demain, je n'ai pas eu le temps, puis on se trouve toutes sortes d'excuses. Puis moi, je vous le dis, c'est pour moi. Je me suis engagé cette année à me dire, je veux prier tous les jours. Puis même présentement, là, je fais un challenge personnel pendant 66 jours, je veux prier. Puis j'ai même un petit tableau, puis je l'ai mis devant mon frigidaire, 66 jours. Je ne saute aucune journée, parce que moi aussi, je suis comme vous, là. Les excuses peuvent venir, la vie va vite, des fois, je me réveille plus tard, mon réveil matin n'a pas sonné. Oh. Mais je m'engage à me dire, je veux prier tous les jours de l'année. D'avoir ce contact-là avec Dieu tous les jours. Pourquoi 66? Il paraît qu'il y a des théories qui disent que ça prend 21 jours de développer une habitude. Il y en a qui disent que c'est 60, 50, bref. Moi, je me suis dit 66. Je m'oppose à l'ennemi. 66 jours. La prière ou la mort. Ce matin, je veux t'encourager. Mais en tant qu'Église, j'aimerais qu'on fasse quelque chose de symbolique ce matin. Je veux t'encourager à mettre la prière dans la catégorie non négociable. Si tu manges à chaque jour, tu dois prier à chaque jour. Si je mange à chaque jour, je dois prier à chaque jour. C'est dans la catégorie non négociable. Obligé de prier une heure, mais dire, je ne l'ai pas fait, puis si je n'ai pas le choix de le faire, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Je ne peux pas sauter cette chose-là. Je t'invite à télécharger l'application YouVersion, Y-O-U version. YouVersion, c'est super bien fait. Puis il y a un verset du jour, il y a une pensée qui vient avec ça, c'est super bien fait. C'est sur ton téléphone, on a tous des téléphones intelligents. Où ce que tu peux, à chaque jour, lire ta parole, il y a même un guide de prière là-dedans, je t'invite à suivre ça. Je t'encourage à mettre la prière dans la catégorie non négociable. Mais aussi, je t'encourage, toi, peut-être que tu es là en visite, tu es là pour la première fois, à dire maintenant, là, régulièrement, je vais venir à l'église. Je mets ça à mon horaire. La réunion, aujourd'hui, dure quoi? 1h15. Ce matin, c'est un petit peu plus long que d'habitude. D'habitude, ça dure 1 heure. On essaie de garder ça court pour que, justement, vous puissiez vaquer à vos occupations puis qu'on puisse avoir un moment de prière considérable aussi, mais on a tous des vies, etc., puis la société va vite, on le comprend. Mais je t'encourage à dire, moi, je vais régulièrement venir à l'église durant l'année comme je ne l'ai jamais fait de ma vie. Mais je veux qu'on fasse quelque chose de symbolique, Mosaïque. L'équipe de louange va nous conduire dans un champ. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous lever. Et moi, je crois que il y a des gestes qu'on fait qui sont des symboles. Fermer les yeux. On n'est pas obligé de fermer les yeux, mais Dieu nous entend. On lève les mains. Parce qu'on le fait parce que Dieu nous voit puis nous aime. On n'est pas obligé de le faire. Merci à ceux qui lèvent les mains présentement, c'est super. Mais des fois, il y a des gestes que tu dis, ben, je l'ai fait, puis j'ai comme marqué. J'ai comme marqué ce moment de me dire, il y a eu un avant et un après. Il y a eu un avant où je ne priais pas, puis il y a eu un après où la prière est dans la catégorie non négociable, la prière ou la mort. Puis j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Puis ton cerveau va vouloir négocier ce matin. J'aimerais juste t'inviter à avancer, à venir ici, là. Juste en avant, avant la dernière marche qui est là, que toute l'église mosaïque, on puisse venir en avant. Tu viens en avant, symboliquement, puis il y a de la place, on peut aller jusqu'à là-bas au bout, là. Mais tu t'avances juste ici. Mais tu t'avances devant Dieu. C'est simple, tu fais juste dire, Seigneur, maintenant je veux prendre ma vie de prière au sérieux. Ou ma vie de prière va bien, mais je veux continuer de prier pour mes enfants, pour quelqu'un autour de moi. C'est un symbole de persévérance, je ne lâche pas. Puis ça serait super beau si... Si tu n'es pas à l'aise d'avancer, il n'y a pas de problème. Mais si toi, Dieu te met à cœur ou tu es interpellé par le message, juste peut-être laisser de la place pour ceux qui vont arriver. Puis il y a de la place, juste en tant qu'église, qu'on puisse avancer aussi. Que nous, on est une église qui prie. Puis je vais avancer avec vous, Mosaïque, je vais être là avec vous, qu'on prie, qu'on prie ensemble. L'équipe de louange va commencer à nous conduire dans un chant. Et on va chanter deux fois. On va prier. Chanter, c'est prier deux fois. On va louer Dieu. On le fait devant Dieu ce matin. On vient parce que la prière est tellement importante que c'est la prière ou la mort. Mais on vient aussi parce qu'on donne notre vie à Dieu ce matin. Tu prends la décision de lui donner ta vie. On va chanter ce chant ensemble. Puis c'est une prière envers Dieu qu'on fait ce matin.